On voulait en venir à donc ton livre sur la censure. Peut-être revenir un petit peu sur la mise en place de la censure lorsqu'apparaît la guerre 14-18. Tu montres à travers ton ouvrage que à partir du moment où la guerre est proche et que il y a une chape de plomb qui va s'abattre à la fois sur la presse, à la fois sur toute une série de domaines de la société, la censure se met en place. Est-ce que on peut dire deux mots sur le comment ça s'accompagne? C'est des lois d'exception,
mais c'est pas compliqué. Dès qu'il y a proclamation de l'état de siège, le gouvernement confie à l'armée le soin d'assurer la censure, et les militaires délèguent une grande partie de leur pouvoir à la police, donc au cabinet de police à Paris. Et on imagine toujours que la censure, c'est uniquement la presse pour protéger les secrets militaires. On disait encore à l'époque que pendant la guerre de 1870, les Allemands avaient avancé très vite parce que tout était dans la presse française. Il suffisait que l'état-major allemand achète les journaux français pour savoir connaître les mouvements de troupes. Donc on encadre toute l'information dès le 2 août 1914, mais finalement on s'aperçoit très vite que la censure sur les opérations militaires, c'est trois fois rien. Parce que les journaux reçoivent des informations qu'on veut bien leur donner, ils ne peuvent pas en avoir plus, mais que très vite ça vire à la censure politique. Et s'il y a volonté ensuite de protéger l'ordre public, on finit à la longue par protéger l'ordre moral. Ça se décline très vite. Toute la société est mise en condition, on ne peut plus écrire, on ne peut plus chanter, on ne peut plus jouer une pièce de théâtre. Les censeurs s'intéressent également à la publicité, aux petites annonces. Au nom des chevaux de course, n'importe quoi, c'est fou. Il y a une censure postale aux armées. Autrement dit, les militaires font participer les employés des postes à la censure du courrier. Il y a une censure policière du courrier des civils. Et juste un mot encore. Ce qui est intéressant de noter, c'est que comme la société française est une société qui marche sur trois pattes dès le début de la guerre, parce qu'il reste dans les villes et dans les campagnes des femmes, des enfants et des vieillards, plus que des invalides et quelques planqués, il n'y a plus d'hommes, eh bien, les femmes sont à l'usine, où elles remplacent les hommes pour tourner les obus, et elles sont sous-payées, maltraitées, méprisées. Et elles sont à l'avant-garde à l'époque, finalement, d'un mouvement pour la paix tout à fait extraordinaire. Et on s'en aperçoit également dans les échanges du courrier entre les soldats et leurs femmes qui sont restées à l'arrière. J'ai trouvé aux archives des centaines de tracts différents qui émanent d'organisations structurées, mais également d'initiatives individuelles contre la guerre. Et à l'époque, parler de guerre, c'est un crime contre l'État. Parler de paix, pardon, c'est un crime d'État.
Est-ce qu'on pourrait revenir là plus précisément sur cet arsenal juridique qui se met en place? C'est-à-dire, à la fois, il y a un certain nombre de lois d'exception, et techniquement, c'est ce que tu disais en quelques mots, les censeurs s'installent partout dans la société.
Ils ont tous les pouvoirs, et finalement, ils créent les pouvoirs de la censure au fil des jours. On voit par exemple un journal qui publie une information qui n'a pas de problème, et le journal du département à côté va reprendre la même information, il sera censuré. Et au début, les journaux doivent soumettre leurs exemplaires à la censure, et puis ça ne suffit pas, ce qui fait qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, dans les grands quotidiens, même dans les hebdos, puis il y en a des centaines en France à l'époque, une presse est très importante, eh bien, il y a des censeurs qui sont à demeure au marbre, et qui se font apporter les épreuves et qui donnent des grands coups de crayon bleu pour prouver qu'ils existent. Ce qui fait que les journaux paraissent avec des colonnes à moitié blanches parce que, comme ça se passe à la dernière minute, on n'a pas le temps de remplacer, de bourrer les colonnes.
Justement, à quoi ressemble un journal de l'époque? Tu as travaillé sur archives avec ce que tu nous racontes.
C'est plein de trous.
Il y a des trous partout?
C'est plein de trous. Entre autres, j'ai travaillé sur... j'ai recherché ça, je crois que les gens du Canard Enchaîné n'ont jamais vu. J'ai travaillé sur une année de censure du Canard Enchaîné, où j'ai eu les notes du censeur s'occupant spécifiquement du Canard Enchaîné, où chaque semaine on coupe des pans entiers du journal, sans raison particulière, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs, c'est que j'ai découvert là des documents que les gens du Canard Enchaîné ne connaissaient pas, J'ai pensé dans ma naïve candeur que ça intéressait le Canard Enchaîné, mais ils se sont abstenus de dire le moindre mot sur ce bouquin. Enfin, c'est pas grave, ça, c'est un petit coup de griffe en passant.
Non, tu veux dire que tu es censuré par le Canard ?
Ah non, 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 c'est pas de la censure, ça. C'est du non-dit. C'est tout à fait autre chose.
Alors donc, peut-être revenir sur les lois. On est dans des lois d'exception ou des lois qui...
Eh bien, c'est très curieux, parce que dans ce pays, dans d'autres aussi, une loi qui n'a pas été abrogée peut toujours être réactivée. On s'aperçoit par exemple, en 1916-17, qu'on applique au théâtre, au cinéma et au café-concert une loi datant de 1849 du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, qui est une loi scélérate sur les spectacles et les réunions publiques. Donc on se sert de cette loi qui n'a jamais été abrogée pour interdire certains spectacles, par exemple. Mais c'est pas nouveau. Même en avançant dans le temps, quand en janvier 1936, un gouvernement de centre-gauche, si on peut dire, présidé par Albert Sarraut, prend la fameuse loi, le fameux décret pour l'interdiction des ligues armées, eh bien cette loi... ce décret qui est pris contre les fascistes à l'époque, contre les Camelots du Roi et les Croix de Feu, eh bien Marcellin s'en servira en 68 pour dissoudre les groupes qui ont fait mai 68. Comme quoi une loi qui n'est pas abrogée peut toujours être réactivée et dangereuse.
On voit la même chose sur la loi Guesso, enfin si on continue à faire de l'anachronisme, sur la loi Guesso qui a été utilisée par l'extrême droite pour condamner Charlie Hebdo plusieurs fois.
Et Ciné aussi.
Et Ciné, tu as été condamné par eux ?
Ouais, ouais.
C'est bien fait.
Au nom de la loi ?
À cause de, de l'article de loi Guesso, ouais. Avec la retombée sur la gueule. C'est incroyable. Mais Guesso était d'accord pour venir au tribunal dire « Ah ben non, c'est pas du tout ça que j'ai voulu. » C'est mon avocat qui a dit « Écoute, il vaut mieux qu'il reste chez lui, qu'il ferme sa gueule, il va encore dire des conneries.
» Donc
fais gaffe, on est en Seine-Saint-Denis, là.
Pour en revenir donc à la censure, donc tu as travaillé beaucoup sur les archives de Vincennes, c'est bien celle-là ?
Ben sur deux fonds d'archives qui sont ouverts il y a plus de 80 ans, les archives historiques de l'armée de terre et les archives de la préfecture de police à Paris, qui ont une richesse invraisemblable. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné, au-delà de ce que j'ai trouvé, c'est que les historiens institutionnels ne se soient jamais intéressés à des choses que j'ai pu consulter parce que je les ai trouvées. Et bien souvent, le grand bonheur du chercheur, c'est de trouver ce qu'il ne cherche pas.
Alors, un des domaines que tu abordes dans ton livre, c'est la question du courrier. Qu'est-ce qui apparaît à travers le courrier ? Qu'est-ce qui est censuré ? C'est-à-dire tout ce qui pourrait faire arriver des nouvelles défaitistes du front ?
Il y a deux aspects. Hein. Toutes les lettres que j'ai consultées, il y en avait plein un carton. Ce sont des lettres qui ne sont jamais arrivées à destination, déjà. Chaque lettre est accompagnée d'une note, où on dit « soldat intel, mauvais esprit, défaitiste, antimilitariste, etc. etc. » Et si on regarde de très près tout ce courrier, il n'y a pas vraiment de courrier antimilitariste. Il y a des gens qui se plaignent de la dureté de la vie militaire, des gars qui crèvent de misère au fond des tranchées, avec des gradés qui les méprisent, avec la perspective de se faire tuer le lendemain, et avec quand même, alors là c'est intéressant, j'ai trouvé une lettre d'un soldat qui écrit à sa femme, en disant, à l'usine, travaille le moins vite possible, parce que plus vous ferez d'obus, plus ça va faire durer la guerre. Ça, les censeurs militaires n'aiment pas du tout ça. Et j'ai trouvé une note d'un certain colonel Zopf, qui était censeur en chef à l'armée, qui explique comment, quand on laisse passer une lettre, comment la caviarder, il emploie le mot caviarder, avec à l'époque, il y avait des crayons dits à encre, des crayons à mine ordinaire, mais quand on le mouillait, ça faisait comme de l'encre violette. Alors, comment surcharger pour qu'on ne puisse pas lire. Alors, en revanche, dans les villes, c'est la police qui assure la censure du courrier, souvent adressée aux responsables syndicaux, et singulièrement à ceux qui sont minoritaires dans le Parti Socialiste, donc contre la guerre. Et là, le courrier arrive à destination, mais la police a pris soin de faire des copies. Et j'ai eu la grande joie de trouver toutes ces copies de courriers consultés par la police.
Donc, au-delà du courrier, on a vu, il y a la presse. La censure va aussi s'appliquer, tu l'évoquais tout à l'heure, à tout ce qui est le domaine culturel, entre guillemets. puisqu'on peut prendre les domaines un par un, le théâtre, la littérature, le cinéma,
la chanson,
tout ça, tout ça est sous le coup de la censure pendant toute cette période-là.
Pendant toute la guerre et même au-delà. Et tout organisateur de spectacle ou directeur de salle doit soumettre son spectacle au moins 10 jours à l'avance au censeur pour savoir s'il pourra produire ou pas son spectacle, s'il pourra faire venir en scène un tel ou un tel, si on pourra chanter telle ou telle chanson. Et ça va tellement loin qu'un espèce d'histrion, un olibrius ancien du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui est censeur en chef du théâtre, dira un jour, écrira, il a entre les mains une pièce de Shakespeare. Peu importe, c'est une pièce qui va être jouée, il faut donner le visa ou le refuser. Et il note à côté de la feuille où il y a le titre du spectacle, on ne censure pas Shakespeare. Encore que, en relisant la scène 3 de l'acte 2, j'ai eu des doutes parce qu'il y a telle similitude avec la situation actuelle que j'ai hésité. Voilà la connerie des censeurs de l'époque.
Alors, tu fais aussi tout un chapitre sur les chansons. Et alors là, tu fais une constatation qui est un petit peu je sais pas, désabusée ou étonnée. C'est-à-dire que la censure est, relève pas franchement de quelque chose de rationnel de la part de...
C'est pas cohérent du tout.
C'est un petit peu au bon caprice ou au bon vouloir du type
qui
a le stylo en main.
Il y a une cohérence dans l'incohérence. Parce qu'il ne faut pas toucher à l'armée, il ne faut pas toucher à la police, il ne faut pas moquer nos alliés. Donc, on prend un type comme Théodore Botrel, barde très connu. Je vois un breton en face de moi qui rigole.
Oui, c'est quand même un col labo monstrueux. Ouais.
Alors, j'aime Paimpol et sa falaise. Il n'y a pas de falaise à Paimpol, ça c'est le problème. J'aime aussi ma Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Ça, c'est très bien, ça. Seulement, dans le couplet suivant, il y a marqué « Pour combattre la flotte anglaise comme il faut plus d'un moussaillon », le censeur dit « Il faut rayer ce vers-là, parce qu'on ne combat pas la flotte anglaise quand on est allié ». Et dans le même temps, dans le théâtre, le censeur est en train de lire une pièce de théâtre où il est question de la bataille de Fontenoy sous Louis XV, où les armées royales ont foutu la pile aux Anglais. C'est invraisemblable qu'on puisse dire ça en scène. Donc le censeur demande à l'auteur de changer la ville de Fontenoy et de remplacer par un village à côté où l'armée française s'est trouvée face à des Prussiens. C'est ça la censure de l'époque.
Alors, pareil, tout ce qui peut démoraliser les troupes, pareil, tout ça, ça saute. Et voire même, là, il y a une censure plus morale qui s'applique, c'est-à-dire que les chansons grivoises en particulier sont elles aussi qui sautent.
Et non, parce que c'est pas bon, ça. Il y a une chanson que je note quelque part où les paroles, c'est « Il vaut mieux rester garçon, c'est bien plus chouette dans la vie d'être garçon, donc célibataire ». Ça, c'est insupportable, parce que quand on est célibataire, on ne fait pas d'enfant pour la prochaine.
Voilà.
On censure Tristan Bernard, l'anglais tel qu'on le parle. C'est fou.
Alors, tu cites des extraits. Alors, il y en a des pleines pages. Il y a des chansons qui sautent parce que... sont grivoises. Alors, il y en a une où je cite, là, si les grenouilles ne font pas pipi, c'est parce qu'elles n'ont pas de queue pour le faire, et hop, ça saute. La chanson qui contient ça, elle saute. Alors, la chanson dont tu parlais, je reste célibataire et je dis sans façon que pour être heureux sur Terre, il vaut mieux être un garçon, ça saute aussi. Et donc, tu cites dans une partie.
Oui, c'est pour montrer le cheminement tordu des censeurs. Hein. C'est pas... Mais c'est quand même très cohérent. Parce que... Et alors, en plus. Il y a une littérature importante, ce qu'on appelle la littérature de gare, qui est florissante à l'époque. Eh bien, on surveille de près la littérature de gare pour que les soldats ne ramènent pas sur le front des livres un peu légers, parce qu'ils ne sont pas pour le front pour rigoler.
Alors, et justement, là, on va faire une petite pause. Dans ton livre, tu parles donc de la chanson de Craon qui a été censurée. Alors, celle-là était une chanson de... C'était pas une chanson, franchement, antimilitariste. Qui était
Elle
n'a
pas été censurée. Elle n'existe pas, la chanson de Craon. Il n'y a pas les feuillets paroles et musique. C'est des textes qui circulent d'un cantonnement à l'autre, d'une tranche à l'autre. J'ai retrouvé des versions diverses écrites à la plume. C'est très émouvant. Ça n'a jamais été publié pendant la guerre. Donc les censeurs ne pouvaient pas le publier. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est quand ils trouvaient une version de cette chanson dans une lettre, ils arrêtaient la lettre.
Alors donc on a une version de la chanson de Craon qui est une des seules qui ne soit pas totalement ridicule enregistrée parce qu'on a la version des chœurs de la CGT qui est pathétique, Joli Môme c'est pas terrible non plus. Alors là c'est Serge Géroyau qui fait une version a cappella de la chanson de Craon qui est magnifique, je te propose d'écouter ça.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées. Pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Serge Géroyau qui interprète la chanson de Craon. Alors justement, pour continuer sur cette histoire de la chanson de Craon, qui est à l'origine une valse très populaire avant-guerre, dont sur lesquelles des soldats ont rajouté des paroles, tu nous racontais que c'est Paul Vaillant-Couturier qui aurait recueilli le premier cette...
Mais, oui, mais il y a un tas de versions. Moi, j'ai trouvé dans les lettres arrêtées par le, les censeurs militaires, différentes versions dans les couplets, enfin le fond est le même, mais avec des titres de chansons différentes. Ça s'appelle Sur le plateau, ça s'appelle La Lirette, ça s'appelle. Il y a un tas de titres. Il semble que cette chanson soit née en 1916, les paroles étaient écrites à cette époque, et que d'un cantonnement à l'autre, il y a eu des modifications. Ça a beaucoup circulé sur tout le front. Hein.
Alors ça, c'est des éléments, par contre, que tu n'as pas publié dans ton livre sur la censure, les différentes versions de la chanson de Krohn que tu as trouvées.
Je dis que ça existe, mais je n'ai pas pu les publier parce que ça prenait beaucoup de place quand même.
Alors peut-être juste encore deux mots sur la censure. Tu recenses quelques graffitis qu'on trouvait dans les tranchées. Alors à part l'inévitable mort aux vaches, il y en a un qui m'a fait rire. Donc c'était graffité ça dans les tranchées. Dans la vie civile, les hommes conduisent les vaches. Dans la vie militaire, c'est les vaches qui conduisent les hommes. On trouve beaucoup de ce genre d'inscriptions.
Oui, mais c'est quelque chose d'assez fréquent. Hein, parce que moi, quand je suis tombé sur celle-là, ça m'a ravi. Parce que quand j'ai publié mon bouquin sur mai 68, je note que lorsque Marcelin est parti à l'agriculture en mars 74, j'ai dit avant il s'occupait des bœufs, maintenant il va garder les vaches. Donc il y a des renvois à l'histoire.
Voilà, donc
une cohérence.
Pour terminer peut-être sur ce sujet-là, la censure se lève à partir de quand et, tu dis que la guerre finie, la censure perdure sous certaines formes un petit peu.
Jusque vers 1920, mais ça n'a jamais cessé. Pour le cinéma, il y a une loi, il y a une censure du cinéma qui s'appliquait en vertu de la loi de 1849, donc de Louis-Napoléon. Et on a maintenant, peut-être d'une manière moins dure évidemment, une commission de censure qui est l'héritière de cette censure du cinéma.
Donc voilà, c'était on rappelle peut-être le Cherche Midi éditeur, la censure militaire et policière, 1914-1918, par Maurice Rachfuss. Maurice, tu vas rester avec nous parce qu'il y a un de tes amis, Ciné, qui est avec nous.
Je crois qu'il est plus jeune que moi.
De combien de mois
je ne sais pas, je n'ai pas calculé.
Puisque Ciné publie aux éditions Charlie Hebdo, Ma vie, mon œuvre, mon cul. Et Hubert, ça t'a inspiré deux, trois réflexions frappées au coin du bon sens.
Oui, non, pour resituer un peu la chose, t'étais venu cet été nous parler du premier tome, ouais, parce qu'il y en a eu un premier, puis il y en a encore plein d'autres,
bien sûr,
on espère. Le premier, donc, c'était enfant, donc t'avais encore pas de conscientisation trop sexuelle, t'avais des images comme ça qui t'apparaissaient, des désirs. Donc le premier, il parlait plus de ton père, gréviste, syndiqué, qui se faisait des tatouages en prison et tout. Et là, bon, on était resté là-dessus. Là, on ouvre sur ton frère qui lui est un super dragueur, qui a des plans pour baiser, etc. Et après vient toute ta conscientisation. Donc, en gros, là, ce deuxième tome, c'est le même que le premier avec 2 ans en plus, parce que il y a un an de ta vie.
C'est la Suisse, quoi. Non, là, il y a 2-3 ans, je crois.
Trois ans,
non,
ouais. Donc, quand même, dans le temps, il est beaucoup plus court que le premier.
Ouais. Mais alors, mais il s'est passé plus de choses.
C'est plus dense.
Quelque part, c'est Ciné découvre la sexualité.
Un peu, ouais.
Beaucoup.
Ouais, non, y a que ça, ça parle que de cul.
Non, mais ça va, c'est assez. Après, je parlerai politique un peu, mais après, là, il faut y aller crescendo, quoi. Enfin, je veux dire, et chronologique aussi.
Parce que là, on brasse une période.
Après, j'ai arrêté de baiser, donc.
Ah, pas de chance. Je ne sais pas si ce sera intéressant à lire cette période. On va voir. Parce que là, on brasse une période qui est grosso modo, c'est 39-41, l'exode.
Ouais, c'est le début de l'occupation, ouais, l'exode. Ouais. J'ai un an d'occupation, quoi. Là, le troisième que j'attaque, c'est l'occupation, carrément. Et puis la libération, quoi. Et puis peut-être j'irai jusqu'à, je ne sais pas, enfin, je ne promets rien, jusqu'à mon armée, quoi.
Alors, juste, ça nous a fait bizarre que tu racontes tes souvenirs de quand t'as 10-12 ans, 10-13 ans.
Ouais, 12 ans et demi, ouais.
Parce que Maurice Rachfuss avait publié l'année dernière un livre qui s'appelait 10 ans en 38. 10 ans en 1938, alors Maurice se souvient plutôt de l'échec de la grève de 1938, de choses comme ça. Toi, c'est plutôt... Moins ça, enfin, moins.
Mais je savais même pas que ça existait, moi.
Non,
c'est vrai, j'étais pas. En plus, mes parents n'étaient pas politisés, ils étaient en armes, ils se foutaient de tout, ils étaient antimilitaristes, bon, sans problème. Mais c'est vrai que je n'étais pas très au courant de ce qui se passait. Moi, j'ai découvert ce que c'était qu'un juif pendant la guerre. Quand j'ai vu l'étoile, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et même mon pote à qui je posais la question n'a pas su me répondre. En plus, je suis resté ensuite, je ne sais pas, au moins 20 ans, sans savoir qu'il y avait des juifs séfarades. Moi, je les croyais tous. À
moi non plus, je ne savais pas.
Tu vois, donc, franchement... Alors, franc-maçon, alors, quand j'entendais franc-maçon, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, j'ai toujours pas bien compris, tu me dis quand même.
On croyait que tu bondais.
Ouais, non, c'est vrai qu'il y avait le cul qui m'intéressait. Et les gars, et puis la bouffe, quoi, parce qu'on la sautait vraiment. Et moi, je pensais qu'à ça. Moi, j'étais pas poursuivi, j'avais rien fait. J'étais un bon à rien. J'étais pas ni collabo, ni. J'étais con, quoi. Enfin, j'étais môme. Donc, c'est vrai que je suis quand même plus jeune que Maurice, et lui était plus conscient.
Mais en plus, tu es du mois de mai ou du mois de juin ?
Du mois de décembre.
Ah, moi, je suis du mois d'avril.
28.
Ah, bah, moi aussi.
Toi
ouais.
aussi,
ouais.
Ben, ah, bah ouais, en effet, ouais, non, c'est bizarre. Ouais. Enfin, moi, je sais pas.
Maurice, t'inexplique. Maurice a peut-être été pris dans une situation différente, puisque toi, tu étais obligé de porter l'étoile jaune dès 1942.
Bon, c'est évident, ouais, ça te bat quand même.
Et ça, tu te politises à toute allure, là.
Ouais, ouais.
Justement, Stine, est-ce que tu peux dire un peu comment tu as vécu cet épisode du port de l'étoile jaune qui arrivait tout d'un coup comme ça dans une cour de récréation à l'école?
Ben moi, ça m'a fait tout drôle, hein. Bon, tout drôle, enfin tout bizarre. Donc, j'ai demandé à mon seul pote que j'avais qui la portait, pourquoi. Il m'a dit, j'en sais rien. Il n'avait pas fait sa bar mitzvah et toutes ces conneries. Il était juif par hasard. Enfin bon, ses parents lui avaient même pas dit, je crois. Enfin, lui, il n'était pas au courant. Donc après, bon, bah, on s'est un peu rencardé. J'ai demandé le directeur de l'école avait été chouette à l'époque. Parce que quand on a vu les petits copains, il y en avait quand même plusieurs dans la cour de récré, hein, ils ont commencé à se foutre sur la gueule, bah, comme on faisait d'habitude. Mais là, ils devaient cogner plus sec quand ils avaient l'étoile, je ne sais pas. Enfin bon, il y a eu des bagarres. Ils disent, non, pauvre con, pourquoi tu portes ça? Et le directeur a convoqué tout le monde en disant, bon, vous avez dû remarquer que depuis ce matin, il y a des petits camarades à vous qui portent un truc cousu sur leurs vêtements. Bon, et j'ai vu qu'il y avait quelques orions qui s'étaient échangés entre vous. Le premier que je prends, enfin, quand j'en prendrai deux, c'est celui qui n'aura pas l'étoile qui sera viré. Je vous préviens tout de suite. Mais sans nous expliquer pourquoi, tu vois. Mais enfin, quand même, ça avait un peu marqué le coup, quoi. Le type, il a dû finir, il a dû se faire virer de l'école, le pauvre. Et puis voilà, non, puis moi j'ai su... Après, bon, c'est en 45 surtout que j'ai vu des copains juifs qui s'étaient planqués, qui sortaient de leur trou, ou qui revenaient de camp, enfin, comme Marceline Loridan, que j'ai bien connu à cette époque-là, puis tous mes potes. Ils portaient pas l'étoile, ils étaient juifs, mais ils se planquaient, quoi. Donc on les voyait pas. Donc, en plus, on ne connaissait pas du tout ce qui se passait. On savait qu'on les déportait, qu'on les balançait dans les trains à bestiaux pour les emmener. Mais moi, je pensais qu'ils allaient bosser, quoi, de force. Enfin, bah, comme tout le monde, je crois. Camp de concentration. Enfin, si, concentration, mais pas extermination. Tu vois.
Donc, Maurice, justement, toi, si on veut faire un peu un parallèle, parce que vous avez vécu la même époque, toi, l'obligation, quand on est tout gamin, de porter l'étoile jaune, là, tu disais, il y a 5 minutes, ça conscientise ou ça politise à toute vitesse.
Comment toi, ou ça désespère uniquement. Hein.
Comment toi, tu as vécu ça étant gamin
Je ne sais pas, moi, quand je suis... Le 8 juin au matin, c'était un lundi, 8 juin 42, quand on... Si ça marque, quand même... Quand il a fallu partir au collège, ma mère m'a pratiquement jeté dehors, je ne voulais pas sortir avec ça sur la poitrine. Et j'ai eu le sentiment d'être transparent dans la rue, parce que les gens ne me regardaient pas, regardaient au-dessus ou en dessous.
Mais le type de réaction qu'il y avait chez des gamins de ton âge, c'était un peu ce que raconte Ciné
Non, moi, on m'a foutu la paix, on n'était que deux. Hein, puis c'était au collège, c'était déjà peut-être plus réfléchi, je ne sais pas. Mais c'était assez lourd, hein. On me regardait un peu comme une bête curieuse. Alors, il n'y a pas un modèle achevé d'un style ou de directeur. Ciné vient de dire que son directeur a été un type fantastique. Eh bien, le directeur du collège où j'étais, qui était un collabo, qui portait la Francisque, a dit, dans un groupe où je me trouvais, le premier qui l'ennuie aura affaire à moi. Donc, les choses ne sont jamais claires, hein. Ah oui, juste rapidement, je peux quand même bouffer du temps sur ciné. Puis,
tu peux.
Ouais. Il y avait dans notre classe, en cinquième, un copain qui s'appelait Lévi. Et on était à peine entrés en classe ce lundi 8 juin au matin, qu'il y avait une espèce de petit fumier qui est mort après glorieusement l'Indochine, qui lui a dit, dis donc Lévi, t'as pas ton étoile. Puis on n'a pas revu Lévi le lendemain, il n'est pas revenu. Ça existait aussi, c'était des gamins de 14-15 ans.
Waouh. Voilà, ciné donc...
Pour revenir à des trucs un peu plus joyeux, on peut commencer par la première scène du bouquin où tu présentes ton frère quand même. Celui-là, ça devait être un personnage.
Il avait 10 ans de plus que moi. Et moi, je disais, oh, le vénard, il baise. Enfin bon, c'est vrai en plus, c'était un beau mec, dragueur, les cheveux gominés et tout. Et je le voyais toujours avec des gonzesses, et c'est vrai que je l'enviais, mais moi j'avais 12-13 ans, et ça le faisait chier de me traîner derrière lui. Donc juste un jour, il m'avait emmené comme ça, en me disant, bon allez, je vais t'emmener en coulisses au Grand Guignol, et puis j'ai réussi à avoir des nichons pour la première fois, ça, ou presque. Moi, enfin, ça, toi, je l'emmerdais, j'étais un petit chieur, occupe-toi, donc je me branlais sur ses... personne interposée, enfin bon... C'est lui qui baisait, moi je me branlais, enfin ouais, je me suis mal exprimé.
T'étais précoce, parce qu'à l'époque, j'y pensais même pas.
Et donc, ton bouquin, alors il y a l'histoire de ton frère, il y a aussi l'exode, quand les Allemands...
Oui, ça aussi, curieusement, c'est un bon souvenir pour moi après, parce que ma mère a fermé son épicerie, en embarquant, alors on a piqué un camion qui était à côté, qui traînait, un camion de déménagement, un énorme truc, gros cul. Et comme mon père ne savait pas conduire, il est allé chercher un patron de bistrot à côté en disant « Tu sais conduire, tu viens ». Donc on a rempli le camion de tous les trucs de l'épicerie. Le bistrot a pris tout le Beaujolais, tous les tonneaux qu'il a pu. Et on les barrait sans trop savoir. Si, on savait où on allait en fait, parce qu'on allait à Villeneuve-sur-Lot où le patron de mon vieux avait dit... qu'il y avait une usine là-bas qui l'attendait et qu'ils seraient tous recasés. Quoi. Puis quand on est arrivé là-bas, au bout de 3 semaines, 1 mois, après un voyage assez épique, bombardé, mitraillé, enfin bon, les pneus crevés. Et bien arrosé, ouais, parce qu'on picolait, on bouffait bien, nous on était les rares privilégiés.
Eh bien, non seulement tu pratiques la masturbation, mais tu commences à picoler à cette époque-là.
Oui, tout ça. Je me déroulais même avec les copains, avec les mégots de mon père, je me roulais des cigarettes. Ouais, j'ai commencé bientôt. Quoi. Et puis finalement, ça a fait un mois de vacances. Mes parents ne prenaient jamais de vacances. Là, pour une fois, c'était chouette. Quoi. J'étais avec eux, on avait emmené le chat. Et puis on avait loué une maison, un péquenot quelconque, vers Villeneuve-sur-Lot. Là-bas, on est resté un mois, peinard. Puis quand on est rentré, ben on a rouvert l'épicerie qui était pleine de souris. Parce qu'on n'avait pas tout déménagé, on avait laissé des paquets de pâtes et du riz, des conneries, qu'on avait pas, ça valait pas le coup de les emmener. Il y avait plein de souris là-dedans qui s'étaient multipliées. Et donc le chat s'est régalé. Mickey se régalait de souris.
Pour un peu, c'était joyeux.
Mais ouais, mais bizarrement, ouais. Moi, c'est plutôt des bons souvenirs. Quoi. Alors, c'est vrai que moi, quand ma femme dit ça, elle dit « Ah, oh, tu chéris, tu pourras un peu parler des... » Mais moi, même un bombardement, ça me faisait marrer. On descendait dans les caves, et c'était toujours... Enfin, pour un môme, de se lever, de s'habiller, de descendre à la cave en pleine nuit, c'est plutôt marrant.
C'est une récréation.
Quoi. Et puis à l'école, pareil, quand il y avait une alerte, on se cassait, ça évitait la géo, la chimie, tous ces trucs. Donc, moi, j'étais content. À chaque fois que j'entendais les sirènes, je disais « Chouette ». Ça, c'est un peu con, mais bon.
Maurice, c'est comme ça a l'air de te faire moins rire, toi.
On n'a pas les mêmes souvenirs. Moi, je me souviens des premières alertes en septembre 1939. On avait une trouille épouvantable parce que je faisais partie des mômes qui... Et les enfants d'immigrés sont quand même plus informés que les petits franchouilleurs à cette époque parce qu'il y a toute une histoire derrière les parents. Et on savait Guernica, les bombardements allemands en Espagne. On avait la trouille des bombes incendiaires, des gaz. Bon, après, comme dit Ciné, on n'y pensait plus. Mais au début, ça a été la panique, hein, quand on descendait dans les caves à bris. Et juste une anecdote, la cave à bris, on descendait au bout de la rue de la Villa à Vincennes, au coin de la rue du Polygone. C'était l'immeuble où habitait la famille Léotard.
Tu parles du chanteur ?
Oui, la même.
On va peut-être faire une petite pause musicale, puisque tu pourras commenter après. C'est issu de, du disque que tu as publié chez Frémaux et Associés. Enfin, c'est pas toi qui as fait la musique, mais tu as fait le choix des musiques et tu les as illustrées. Bon, on écoute un petit extrait.
Shall get them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
Voilà, donc retour sur Radio Ralfron, toujours sur Fréquence Paris Pluriel. Ciné, tu veux pas le faire, mais tu vas nous dire ce que tu nous as amené. Enfin,
ils ont choisi Billie Holiday, parmi ceux que j'avais choisi, moi. Je crois qu'il y a 32 faces, mais c'est vrai que c'est l'une de celles que je préfère. Quoi. C'est ma chanteuse préférée, il n'y a pas de doute. La peau, ouais. Et puis là, elle a une vie dramatique, enfin bon, c'est vrai, mais je l'aime pour un tas de raisons. Quoi. Pas seulement parce qu'elle chante, mais...
Parce que donc cette compilation là qui passait, c'est t'as choisi des morceaux.
Ouais, dans tout le catalogue que Frémaux m'a filé, il m'a dit tu te fais deux CD, il y a 18 faces dans chaque. Je crois que c'est ça fait 36 morceaux à choisir. Il m'en a filé, je sais pas, 1500, 2000, tu vois, enfin tout ce qu'il avait fait. Donc j'ai pioché là-dedans, et puis j'ai réussi à en choisir 36 ce qui me plaisait le mieux, quoi. Le problème, c'est que je ne pouvais pas dépasser 50 piges, parce que pour ne pas payer de droits d'auteur, Frémaux ne publie que des trucs qui ont 50 ans. Toi. Donc ça s'arrête un peu brutalement à tout juste Charlie Parker. J'ai réussi à en trouver un, c'était ses débuts. Mais il n'y a pas Coltrane, il n'y a pas Mingus, il n'y a pas tous les gens que j'aime bien. Mais par contre, si, il y a des gens que j'aime. Enfin, je les aime tous bien. Mais c'est Armstrong, Fats Waller, Jelly Roll Morton, c'est la... J'ai pas l'arrière-garde, mais c'est les débuts, quoi.
La vieille garde.
La vieille garde, ouais. Bon, enfin, il y a quand même Lester Young, il y a des beautés, quoi. C'est beau le jazz, de toute façon, quelle que soit l'époque.
Donc, Hubert, tu avais une question à poser à nos...
Sur vos diplômes. Je voulais savoir comment toi, Maurice, et toi, Ciné, vous aviez eu votre certif.
Ah, moi, je l'ai eu à l'arraché. Je l'aurais eu quand même, parce que j'étais bon élève. Mais on nous l'a fait passer le matin et on se cassait le soir, quoi. Pratiquement. Donc, on a tous été reçus.
Vous cassiez en exode.
On allait en zoo de libre, quoi. On avait les jetons. Ma mère croyait que les Allemands coupaient les doigts des petits-enfants. On disait, il y a des bonbons, ils envoient des bonbons empoisonnés par des avions, il ne faut pas ramasser. Il y avait vraiment une...
Des montres.
Ouais. Donc le matin, on a passé le truc, et même tous les cancres, là, ont été reçus. Parce que le Dirlo, il n'a même pas relu les copies, il a dit « Ok, vous êtes tous reçus.
» C'est drôle, hein, parce qu'on a eu la même chose. Nous, on a passé ça le 8 ou le 9 juin, je crois, donc à moins d'une semaine de l'arrivée des Allemands. C'était à Vincennes. Hein, et on a commencé le matin vers 9-10 heures. À 4 heures, on avait fini, effectivement, avec la pause du midi. Et pendant... Il y avait un sujet commun qui était l'histoire, la géographie et la dictée. Je ne sais plus comment ça fonctionnait, mais il y avait tout dans tout. Et en plein milieu d'un de ces sujets, il y a eu un combat entre avions de chasse au-dessus de Vincennes qu'on a vu de notre classe et on regardait dehors plutôt que de regarder la copie. Alors on a tout su, je crois, le certificat d'études.
Donc toujours Ciné, on était en train de parler.
On était en avance, on avait 12 ans. Hein,
ouais. En avance pour le certificat d'études.
En général, c'était 14 ans. Hein.
Je pensais à la sexualité de Ciné.
Parce que Ciné, voilà, il était en avance pour autre chose.
Je pensais à la sexualité de Ciné, alors je voyais pas le rapport. Pour en revenir à ta bite, Ciné, tu nous racontes aussi, en même temps que l'école, tout ça, ça s'évapore. Il reste un truc, c'est les fesses.
Ouais.
Et tu nous racontes en long, en large, en travers, tu nous le dessines même, tout ça. La rencontre avec une des clientes du magasin de ta mère quand vous êtes revenu après l'exode. Voilà.
Il faut acheter le bouquin. C'est trop dégueulasse à raconter à la radio.
Mais est-ce que tu l'as revue après cette...
Non. Non, elle est partie, je ne sais pas. Elle est partie, on est en zone libre. Et je n'ai jamais revu. Non.
Bon, on vous laisse le suspense.
je ne sais pas s'il faut dire hélas, tant mieux. Mais bon. Enfin, moi, j'ai passé une bonne...
C'est la providence, quand même.
Ouais, c'était génial. Ouais. Mais j'étais timide. Elle m'a vraiment violé. Quoi. Enfin, c'était En fait, c'était de la pédophilie, hein, pratiquement. Moi, j'avais 12 ans et demi, j'étais vraiment môme. Et je ne sais pas du tout quel âge avait cette dame. Moi, elle me paraissait être très âgée. En fait, elle devait avoir que 35 ou 40 piges maxi. Mais elle me paraissait presque pas ma grand-mère, mais presque. J'étais toujours un peu gêné, malgré que je la sautais. C'était pas cool, quoi. Mais bon.
Tu la sautais.
Alors, sur cette série, là, c'est officiellement un trimestriel de Charlie Hebdo. Vu à la vitesse à laquelle tu racontes ta vie, c'est-à-dire il te faut 80 pages pour raconter 2 ans de ta vie, t'en as aujourd'hui 90, il va falloir...
c'est comme Ali, il va faire 500 piges. Mais écoute, je m'arrête quand je crève, hein, je me fais écraser ou quoi, on verra bien. Mais...
Non, c'est la dernière fois qu'on t'a vu, t'étais pas sûr de continuer, tu te disais 3-4 volumes, là c'est parti.
Mais on sait pas, peut-être ça va aller vachement plus, hein, dans le troisième je vais peut-être faire 20 piges d'un coup, tu vois. Je sais pas, franchement moi j'écris ça comme ça vient, ça m'amuse, quand ça m'amuse pas je le raconte pas, c'est pas... Puis voilà, il va y avoir la découverte du jazz, là, quand même, je me mets en 45, ça va être sympa. Ça, je crois que je vais passer... Moi, finalement, si le sujet m'amuse, je fais 10-15 pages. Si c'est pas marrant, je saute. Hein. Donc, je peux sauter 2 ans facile. Moi, je fais pas un truc, c'est pas des mémoires, c'est des souvenirs. Tu vois.
Et ce sera toujours du manuscrit comme ça, de la belle écriture.
Il y a une belle écriture. Hein.
Ouais, puis c'est marrant. Ça. Puis ça, en plus, t'as pas besoin d'écrire beaucoup, ça remplit, tout fait des... Ça va vite à faire 80 pages.
Et pour les illustrations, comment ça... Enfin, bon, à mis à part les dessins, ça, on voit comment ils sont faits, mais pour les... Il y a des rares photos, des plans d'objets qui sont pris du dictionnaire, etc.
C'est dans l'homme humain, ouais, je me suis amusé à faire ça. Aussi, mais dans le 2, il n'y en a pratiquement plus. Il reste une photo, ouais. Puis d'ailleurs, j'en ai plus, j'ai épuisé mon stock. Et puis, ouais, puis il y a encore hein, ce petit. La queue de billard. Mais sinon, non, le reste, j'ai dû me cogner tout à la main, dessiner. Oh là là, c'est un peu à me faire faire des progrès presque. Parce qu'en plus, c'est pas des gags, c'est pas des dessins d'humour, hein, c'est des illustrations du texte. Alors, c'est pas toujours très marrant à faire. Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir foutre pour.
Ouais, grosso modo, quand Ciné, il écrit « J'ai vu les nichons de la fille », bon, à côté, il dessine les nichons de la fille.
Ouais, j'essaie de rester très près du texte.
De base.
Ça colle au plus près du texte, là. Sinon, bah, en 95, tu avais publié les chroniques de Ciné sans sa zone de Charlie Hebdo, mais alors, je ne sais pas quel truc leur avait pris au Cherche Midi, puisqu'ils avaient... Ils avaient tapé.
Bah, ils ont imprimé.
Mais ils ont tout retapé. Ouais.
Ils ont tout retapé les textes que tu avais écrits à la main, ce qui fait que ça donne plus grand chose.
Bah ouais, tu vois, ça a moins de charme.
Hein. En plus, ça coûtait 100 balles. Quoi. Non,
ouais, mais Cherche Midi, c'est des escrocs. Hein. C'est là aussi où publie Maurice Rasfuche.
Maurice, c'est des escrocs ?
Comment ?
Le Cherche Midi.
Ah, mais non, mais il y a un monde de l'édition.
Non, alors que moi, à Charlie Hebdo, là, j'ai une peur royale, vraiment, je choisis la couleur, tout le monde gueule, alors je dis, oh, t'as vu la couverture infecte, ce qu'il a fait, le vert qui prend, le rose. C'est vrai que je fais pas l'unanimité, mais au moins, j'ai une peur royale, je peux écrire n'importe...
Tu prends la couleur de chapeau de la reine d'Angleterre.
N'importe quelle connerie, tu vois, je crains pas la censure, là.
Est-ce que les couleurs, c'est toi qui les choisis, ou le rose du premier, le rose un peu...
T'as pas vu, je crois que c'est... Attends,
c'est pas rose, c'est couleur lit de vin. Hein.
Malgré une couverture d'une redoutable laideur, il faut lire le dernier tome. Ça, c'est l'écho des savanes qui avait écrit ça.
Qui en connaissent un rayon.
Ouais, tu cites même, parce qu'à l'arrière, en quatrième de couverture du volume 2, il y a les réactions.
Les extraits de presse.
De la presse. Bah, tu cites même Ralph Rond dans la presse de référence, ça fait ça quand même.
Pierre Objectif, c'est
avec Ralph Rond, où il y a un article quand même de fond qui était paru sur ton bouquin, puisque l'extrait que vous en avez tiré, c'est à lire avec un ou plusieurs pastilles bien frais.
Mais j'aime bien, c'est José Arthur aussi qui a dit que pour 50 francs, vous avez 15 francs de série, 15 francs de Zola et 20 francs de sang-cul. Là, tu vois, c'est des mecs intelligents. Enfin, ils réfléchissent avant de dire des conneries.
Voilà, à part dessiner dans Charlie Hebdo, tu te compromets dans quelques endroits, y compris un coup de temps en temps. Tu files des dessins à Maurice Rasfuche pour l'Observatoire des libertés publiques et son petit fonzine que fait la police.
Bah ouais.
Il y a longtemps qu'il ne m'en a pas donné. C'est parce qu'il n'a pas le temps, il en donne à l'humanité de temps en temps aussi, ce qui m'étonne beaucoup.
Ça, c'est fini. Ouais.
Ah bon, quand même.
Mais c'est vrai, je l'ai fait.
Tu les vendais.
Maintenant, c'est Charb. Ah oui, quand il dit... Moi, je les donne à Rasfuche et je les vends à l'humanité. Non, mais c'est vrai que je dessine plus. D'abord, j'ai plus le temps, il faut que je bosse, il faut que j'écrive. Et puis, non, j'ai abandonné pratiquement toute collaboration, à part Charlie.
Quoi. Et t'es sous contrat pour ça ?
Non, j'ai pas de contrat. En principe, il devrait y avoir un contrat, mais il n'est pas encore signé. On me l'a pas encore filé, il n'est pas rédigé. Enfin, ça va venir. Ouais.
Donc, justement, on parlait de Que fait la police. Il y a quelques mois, Maurice, avec tes amis de Que fait la police, vous publiez les 50 premiers numéros aux éditions d'Agorno.
Avec une belle couverture de Ciné.
Voilà.
Sur un fond tricolore.
Toujours le secret des couleurs, Ciné, bleu, blanc, rouge.
Oui. Ça, c'est pas moi qui ai choisi, là. C'est un metteur en page. Mais enfin, ça paraissait tomber sur le sens, quoi. Bleu, blanc, rouge pour la police. C'est des couleurs de la haine, quoi.
Et donc, vous continuez, Que fait la police ? On a reçu le dernier numéro là, d'octobre.
54, oui. Le 55 paraît la semaine prochaine.
Alors, est-ce que je peux peut-être profiter pour donner Que fait la police ? C'est ces quatre pages qui recensent un peu tous les faits et méfaits
du mois précédent.
Des forces de l'ordre, ce qui est paru un petit peu dans les
Y compris la gendarmerie d'ailleurs, et les contrôleurs du métro. Mm-hmm.
Nos amis, les contrôleurs du métro.
Voilà.
Est-ce qu'on peut donner juste profiter pour donner les coordonnées de Que fait la police ?
Oui, c'est 7, 9, passage d'Agorno, 75, 020, Paris.
Voilà. On va faire une autre pause musicale avec ton disque signé par Eos Éditions Frémo et Associés. Je crois que c'est Charlie Parker qui a été choisi. Non, c'est pas Charlie Parker, c'est autre chose.
However, I'm convinced, completely, fully, firmly convinced, you're the only one for me. You're not the only wriggle in the prune. You're not the only apple on the tree. Still in all a fact, perfectly logical, positive fact, you're the only one for me. So well supplied, the very things I see. Oh, mercy, baby, your smile is refreshing. Kisses so unique. When I'm round, I'm susceptible and weak. I loves you, so to speak. There's 7 million people in New York. 50 million Frenchmen in Paris. Not to mention such as English, Irish, Italians, and Dutch. But you're the only one for me.
Voilà, donc c'était toujours un extrait du disque qui a organisé, dirigé Ciné, et c'était Fats Waller. Alors donc, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission de Ralphon, une émission spécialement dédiée aux bonnes sœurs, aux curés, aux CRS, aux gendarmes, puisqu'on est toujours avec Ciné et Rachfus. On a cru comprendre que vous connaissiez depuis longtemps, et... Je sais pas. Mais je crois qu'il y a un des trucs qui vous rassemble, c'est un petit peu cette grande capacité à dire du mal des flics et des curés, tous les deux. Ça se traduit par des choses différentes, mais...
On dit pas du mal, c'est un constat.
Non, mais Maurice, il a plus de peau que moi, parce qu'il peut aussi dire du mal des juifs et des rabbins, alors que moi, quand je le fais, je me fais traiter d'antisémite. Donc je rêverais d'être juif pour chier sur ces mecs-là aussi. Les rabbins, parce qu'ils sont aussi des cons et pourris que les curés, les mecs des
musulmans. Pas plus.
Aussi. Non, aussi, oui, mais on n'a pas le droit de le dire. Enfin, on se fait engueuler quand on n'est pas juif.
Tu veux dire qu'il y a une censure, non?
En tout cas, il y a une auto-censure. La plupart des goy, ouais, qui n'osent plus. Ouais. Bah, c'est probablement à cause, d'ailleurs, de cette de l'Holocauste et de tout ça, quoi. Il y a une espèce de respect pour ces cons-là que c'est, qui est insupportable, quoi. Les Israéliens, si tu dis que c'est des enculés, tu risques d'avoir un procès, quoi. Si tu prends la précaution de dire Israélien, ça passe. Mais en principe, il faut dire gouvernement, toi, il faut prendre des... Mais c'est bon, alors que tu dis un Palestinien est un sale con, t'as aucun problème, là. Tu peux chier sur les Arabes sans problème. Là, en tout cas, il y a une censure dans les journaux, parce que moi, j'ai eu beaucoup de trucs qui ont sauté quand j'écris contre Israël.
Et Maurice, oui. Tu n'emploies pas le même vocabulaire, tu n'as jamais parlé d'eux comme des enculés.
Non, moi je trouve que Siné est très excessif, parce qu'au plus fort de l'intifada, il m'arrivait de dire que... On ne pouvait pas comparer, c'est pas vrai, l'Allemagne nazie et Israël, c'est pas possible. Mais qu'en tout état de cause, il y avait une différence fondamentale, c'est qu'en Israël, il n'y a pas de chambre à gaz. Donc Siné est excessif.
On faisait référence au fait que vous connaissiez, ça fait... On va pas faire la soirée ancien combattant, mais c'est vrai que vous, manifestement, vous êtes retrouvés à plusieurs occasions dans plusieurs combats ensemble. Non.
Ouais, non, c'est combien de temps, 5-6 ans, pas plus, hein, mais ouais, enfin, non, on était...
Enfin, je connais sa réputation, non, mais je crois que la rencontre physique, ouais, non, elle a eu lieu.
Ouais, c'était inévitable.
C'est pas si vieux, quoi.
Enfin, physique, ouais. Je t'en prie, hein.
Ouais, ouais, ouais.
Ah, il l'a dit.
Je parle pas quand même.
Biblique.
Ah, yes, c'est devenu balai masque, cette émission.
Et il n'y a pas de vin sur la table, hein.
Non, il n'y a pas de vin.
Il n'y a que l'apéro pour le moment.
Le vin sera pour tout à l'heure. Donc, on pensait que vous aviez plus de souvenirs communs à évoquer, parce que maintenant, on est un peu sec.
Non, mais moi, il faut que je lise son bouquin, et lui, il lit le mien, comme ça, on voit les quelques points communs qu'on peut avoir, mais c'est vrai qu'il y en a... Enfin, je veux dire, la façon de voir les choses quand on était môme n'était pas du tout la même, on n'avait pas les mêmes yeux, quoi.
Et justement, est-ce que toi, tu as déjà eu envie, voire tu as déjà fait des analyses un peu plus rationnelles de luttes sur lesquelles tu as pu être ou...
Non, parce que moi, je suis irrationnel. En vrai, c'est pas... Moi, je marche au pif, au cœur, au cou. Alors, j'ai jamais réfléchi trop pourquoi. Moi, c'est l'extrême droite, bon, il faut cogner dessus. Tous les emmerdeurs, c'est tout. Mais c'est vrai que si je devais réfléchir pourquoi, j'ai rien à foutre. Hein. C'est pas mon boulot. Quoi.
Non, mais tu assassines assez bien avec tes dessins. Hein. C'est pas la peine de prendre une mitraillette.
Non, sinon, depuis quelques années, vous retrouvez. Alors, Maurice, lui, formellement, parce que tu dans Ralphon, mais c'est vrai que Siné, tu as été. Tu as illustré les trois quarts de nos bouteilles de pinard, hein, Ralphon.
Ah ouais, ça, on est... ouais, mais ça, c'est pour le plaisir d'être payé en pinard. Entre guillemets. Je n'ai pas été payé, mais enfin, on m'a offert quelques bouteilles. Donc. Là, je marche toujours. Non, j'aurais fait quand même, de toute façon, pour Ralphon. Ralphon, c'est quand même un truc indispensable. Il n'y en a pas assez.
Bon, alors, messieurs, avant de terminer cette émission, les prochaines étapes pour vous, Siné, tu continues à raconter ta vie, ton œuvre.
Je ne débande pas, je continue. Et on verra jusqu'où ça ira. Trimestriel, de façon 4 par an, vous avez encore au moins une bonne année à vous farcir des trucs. Mais donc, après, je ne sais pas, je verrai bien.
On rappelle le trimestriel de Charlie Hebdo en vente. C'est toujours aussi cher. Hein,
uniquement dans les kiosques. Hein,
dans les kiosques, pas en librairie, 50 balles. Là, quand
50
même,
balles.
Et le premier, donc le premier, on ne peut plus le trouver en kiosque.
Non, mais il est dans le deuxième, c'est marqué où on peut écrire. C'est Charlie Hebdo qui l'envoie, mais ça coûte 65 balles du coup.
Ah, donc c'est encore plus. Est-ce qu'il y a question de le rééditer dans une vraie boîte de BD style Bicro, qui sont quand même proches de Charlie ou
pas encore, de Charles, pas encore. Écoute, on va déjà attendre à voir si ça donne.
Attends, il n'est pas encore mort. Ce sera pour ses œuvres complètes, ça.
Ouais, quand il y aura 800 à 900 pages, quoi.
Et puis, toujours, toutes les semaines dans Charlie Hebdo, la chronique de Ciné Sem Sazone.
Sem Sazone, ouais.
Et puis, je ne sais pas si c'est à peine de rappeler ça, en 95, a été publié au Cherche Midi Éditeur, donc les chroniques qui étaient parues jusque-là dans Charlie Hebdo. Voilà. Maurice Rachfus, donc on rappelle la censure militaire et policière 14-18 aux éditions toujours le Cherche Midi Éditeur. Le prochain ouvrage, il est déjà paru, puisque c'est « Souscription pour l'édification d'un monument aux policiers inconnus à l'esprit frappeur ». Ça coûte 10 balles, c'est une petite collection de poche, ça fait 70-80 pages. Sinon, en ce moment, tu travailles sur d'autres...
Je remets dans un mois le manuscrit du prochain, qui va paraître au mois d'avril.
Qui parle de ?
De choses...
Et d'autres.
De choses qui se sont passées de 1919 à 1939.
Et puis, la période, pendant que Siné se masturbait, Maurice Rachfus vivait d'autres choses, beaucoup moins sexuelles, mais tout aussi intéressantes. C'est publié aux éditions Vertical, ça s'appelle 10 ans en 1938, et c'est de Maurice Rachfus. C'est une série d'une un peu plus de 52 petites histoires.
Une par semaine.
Qui raconte un peu l'année 1938 vue par un gamin de 10 ans.
On peut aussi rappeler que Maurice, on peut le retrouver tous les mois dans Ralfront, où il tient une chronique de mémoire.
Ce mois-ci,
on peut quand même penser de temps en temps à dire du bien de ce mensuel qui est quand même un très très bon mensuel.
C'est toujours extraordinaire mensuel. Et ce mois-ci, la chronique, c'est sur le vote des femmes en 1945. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Au revoir tout le monde. On va boire un coup.
Ah, volontiers. Hein.
Salut à tous.
Et on se quitte avec un autre morceau de musique.